au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Eh oui, nous sommes mercredi le 9 avril. Ici Claude Fournel, c'est un grand plaisir de vous retrouver à l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette. Il sera question de la campagne électorale et des candidats boîte à surprise, autrement dit là, les fameux Jack in the Box de cette campagne électorale pour les partis politiques. Jacques Fortin sera avec nous, il est directeur général de Lanaudière internationale. On va parler de la guerre commerciale Canada-États-Unis. Provinciale, élection provinciale, campagne électorale. Geneviève Peterson sera avec nous. Elle est candidate de la CAQ dans la circonscription de l'Assomption. Mais tout d'abord, on va sauter dans cette campagne électorale tout de suite dans la circonscription de l'Assomption avec Régent Turgeon. Bonjour, Régent.
Bonjour. Bonjour, M. Claude.
Tu as eu l'occasion de rencontrer le candidat du Parti québécois dans l'Assomption, Maxime Laporte, le PQ, qui aimerait bien reprendre cette circonscription de l'Assomption, qu'il faut dire, historiquement, a déjà appartenu à M. Jacques Parizeau.
À M. Jacques Parizeau, effectivement, et puis évidemment plus récemment à M. Legault. Donc, la tradition péquiste est très bien établi dans la Lanaudière, mais aussi à l'Assomption. Alors, évidemment, Maxime Laporte veut reconquérir cette circonscription pour le PQ. Qu'est-ce qu'on sait de M. Laporte? Ben, il a 38 ans, c'est un petit gars de Berthier, Berthierville, qui a fait ses études secondaires et collégiales à Jeunette avant de devenir avocat constitutionnaliste et doctorant en droit. Il enseigne d'ailleurs aujourd'hui à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Il est reconnu, là, M. Laporte, pour son engagement de longue date là, dans la défense de la langue française et l'affirmation nationale du Québec. Donc, il a notamment présidé la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et les comités de la fête nationale. On dit de lui que c'est un chercheur, un auteur et communicateur. Et puis, il met aujourd'hui cette expertise-là et son énergie au service du projet indépendantiste.
On voit là que c'est...
Quand on lui demande qu'est-ce que vous entendez sur le terrain, ben, il nous dit que les gens qu'il rencontre, ils parlent beaucoup d'une volonté de changement au niveau du gouvernement provincial.
Là. Un véritable péquiste dans tout ce que tu peux nous décrire. Et on va écouter l'entretien que tu as eu l'occasion de réaliser avec lui dernièrement.
Et le comté de l'Assomption, M. Laporte, c'était votre choix ou le choix du parti de vous envoyer ici?
Les deux. Donc, l'Assomption, je trouve que c'est une circonscription qui me ressemble. La ville de l'Assomption, je ne l'apprendrai à personne, compte un cégep, une vie intellectuelle intéressante, une vie culturelle intéressante avec tout ce qui se passe autour du théâtre Hector Charland, mais tant d'autres initiatives aussi. C'est une ville riche en patrimoine, en histoire. C'est une ville à laquelle je suis attaché. Là, je parle de la ville, mais c'est pas juste la ville. C'est aussi le Gardeur, la Valtrie. C'est l'accès au fleuve désormais. Enfin, on retrouve dans cette circonscription un accès au fleuve. Et c'est les enjeux environnementaux, les enjeux liés aux berges, à la vie riveraine. Enfin, tout ce qui concerne, tout ce qui a trait au fleuve. Donc, je vais en reparler un peu plus tard dans ma campagne. Je vais avoir des engagements à cet égard-là. Et c'est une circonscription qui présente de beaux défis. Sur le plan économique, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan du transport collectif, je pense que ceux qui nous écoutent en ce moment, ça va sans doute sonner quelques cloches.
Vous me devancez.
On sait qu'il y a des enjeux, ne serait-ce que de stationnement, de transport en commun, de circulation. Vous savez, en particulier à l'Assomption, c'est un coin de pays qui se développe à la vitesse grand V. Certains disent peut-être un peu trop vite pour les capacités de nos infrastructures, etc. Il y a des enjeux comme un peu partout au Québec, en particulier en région, relativement à l'accès aux soins de santé. Je suis heureux, par exemple, qu'à l'Épiphanie, bon, il y ait un centre de services de soins de santé qui revienne enfin. Mais est-ce qu'on va avoir accès à un médecin de famille là? Donc, c'est le genre d'enjeux, évidemment, que je souhaite porter aux côtés des enjeux plus globaux, plus nationaux, dont on pourrait parler longtemps.
Peut-être le plus gros défi, certains vont dire, c'est de remplacer comme député un certain François Legault qui était là depuis 8 ans. Est-ce que ça aussi, c'est pas un gros défi ou le plus gros défi de votre campagne?
J'entends être un député extrêmement présent sur le terrain, ce que n'était pas autant François Legault, puisqu'il était premier ministre, j'entends être un député très présent. Je pense que ça va apporter une bouffée d'air frais aux gens de l'Assomption, parce que bon, c'est bien beau faire de la politique à Québec, mais à un moment donné, il faut s'assurer de livrer les dossiers à l'échelle locale, sans dire que M. Legault a rien fait, au contraire, mais vous me suivez. Il y a du développement qui s'est fait, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je vous prends par exemple le dossier du transport collectif. Là, j'ai bien pris note de la sortie des maires de la couronne nord, et puis déjà je m'engage à travailler avec eux pour opérer une véritable petite révolution en matière de transport collectif, de manière aussi à si vous voulez faire respirer nos rues, nos routes, et de manière à ce que ce soit beaucoup plus fluide, ne serait-ce que pour nos étudiants au cégep de l'Assomption, aussi à la succursale de l'université du Québec à Trois-Rivières qui est ici.
On a parlé des enjeux, vous en avez glissé un mot rapidement tantôt, les enjeux urgents, transport collectif, infrastructure, crise du logement, le coût de la vie, M. Laporte. Vous entendez quoi quand vous faites du porte-à-porte, là, justement?
J'entends plusieurs choses, je dois dire. J'entends d'abord, une volonté de changement. Je pense qu'il y a... La CAQ a fait pas mal de déçus. La CAQ s'est peut-être déçue elle-même, puisqu'elle n'ose plus se présenter sous son propre titre, Coalition Avenir Québec. On se demande ce qu'il en est devenu. Une volonté de changement. Ça, c'est la première chose que j'entends. Beaucoup de frustration, beaucoup de déception, beaucoup de promesses brisées. Je pourrais en parler longtemps. Prenons la plus spectaculaire, puisque c'est celle qui a fait l'objet de la dernière campagne électorale en 2022, le rapatriement des prérogatives en matière d'immigration. Les électeurs québécois ont envoyé à l'Assemblée nationale 90 députés de la CAQ. Le résultat, ça a été zéro. Alors, sans trop vouloir faire de formule rhétorique, je me dis, si avec 90 députés, ça a été zéro comme résultat sur le plan des pouvoirs en immigration, ben, je me demande ce que ce serait avec 20, ou à quoi bon en envoyer ne serait-ce que 20. Bon. Blague à part, donc, bien sûr qu'il y a cette déception, il y a cette frustration, et bien sûr que les enjeux, il y a l'inquiétude, les préoccupations relatives à la guerre tarifaire qui a lieu en ce moment. Guerre tarifaire qui nous échappe un peu, vous savez, en tant que Québécois, puisque on est davantage au menu qu'à la table de ce point de vue-là. Moi, évidemment, comme fier patriote québécois, je souhaiterais qu'on soit à la table, je souhaiterais qu'on fasse valoir, comme n'importe quel peuple égal et normal, nos propres intérêts, et je pense qu'on y gagnerait énormément. Je pense que, vous savez, tout ce qui concerne l'insécurité économique des Québécois, l'instabilité qu'on vit en ce moment, elle est largement tributaire d'un négociateur qui n'est pas nous et qui nous informe à peine sur ce qui se passe. Alors, je pense, quand on dit, la question de l'avenir politique du Québec devrait être mise complètement en suspens dans le contexte actuel, pour moi, c'est tout à fait le contraire, vous savez. Et ne serait-ce que pour notre rapport de force, notre position dans le rapport de force vis-à-vis d'Ottawa, on a besoin d'envoyer un message clair. Un message clair en ce que, en tant que nation, on va se tenir debout, puis on va pas se laisser piler ses pieds, puis on va pas renoncer à nos intérêts, puis, si vous voulez, à nos aspirations. Est-ce que ça se peut qu'il y ait pas mal d'aînés qui nous écoutent aussi à votre émission? Ben, il faut dire que le Parti québécois a plusieurs propositions très structurantes, hein, à cet égard-là. Création d'un protecteur des aînés, lutte à la fraude contre les personnes âgées, fraude qui a, malheureusement, les cas de fraude ont augmenté de manière sidérante, là, ces dernières années. Ça a quintuplé entre 2017 et 2023. Et puis, on souhaite aussi favoriser le maintien à domicile des aînés. On s'accorde pas mal sur plusieurs demandes qui me paraissent assez fécondes de la FADOC.
Bon, voilà, c'était le candidat du Parti québécois dans l'Assomption, Maxime Laporte, avec qui le collègue Régent Turgeon s'entretenait. Je disais en début d'émission, mercredi 9 avril. Non, c'est pas une reprise que vous écoutez, c'est carrément une bulle au cerveau, là. Les collègues me l'ont dit. On est mercredi le 9 septembre. Bon, on reste dans l'Assomption. Dans un moment, la candidate de la CAQ, Geneviève Peterson.
Cet été, faites le plein de produits locaux avec les marchés publics orchestrés par Passion Marché dans la région. Comme la 23e édition estivale des pêchés mignons de la Noraie, un incontournable pour découvrir les saveurs de la Naudière avec vue sur le fleuve. Le 13 septembre de 10h30 à 15h30, place au marché écolo en mode zéro déchet. Dans une ambiance zen, dégustation, prêt à manger, aire de repos pour profiter du moment et bien sûr, une foule de marchands d'ici qui vous feront profiter des merveilles de leurs récoltes estivales. Les pêchés mignons de La Noraie, au parc Jean Bourdon, 14 rue Louis-Joseph Doucet, directement sur le chemin du roi.
Le vendredi 18 septembre, le trio Genticorum est en spectacle au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois pour une rare visite dans la Naudière. Les billets sont disponibles en ligne à crapaud.qc.ca.
La louette y chante.
Qu'est-ce qui vous a surpris lorsque vous êtes arrivé aux habitations Bordelot?
Je pensais simplement changer d'adresse. Finalement, j'ai retrouvé à 80 ans une vie sociale. Je me suis fait de nouveaux amis et je me sens chez moi.
C'est ça, les habitations Bordelot. Un milieu de vie pour briser l'isolement. Des repas entre amis, moins de corvées, plus de liberté. Découvrez nos 7 résidences pour aînés, dont notre nouveau complexe à Saint-Charles-Borromée. Réservez votre visite au 450-398-8486. Les habitations Bordelot, Lannaudois depuis 25 ans.
Tous les matins en semaine, commencez la journée avec
l'université qui a envoyé 2000 sous-vêtements d'hommes à des volontaires. Ils leur ont dit, enterrez ça dans votre jardin et après deux mois, renvoyez-nous ça. On va analyser le niveau de décomposition de ces sous-vêtements. Donc, c'est une étude des sols, finalement.
Pour voir si ça peut faire du compost.
Je sais pas.
Est-ce qu'il y a une bourse qui vient avec ça?
Non, faut t'enlève la bourse avant des enterrements.
Lannaudière le matin, avec Diane Lafrance, Louis-Simon Ferland et François Morin, en semaine dès 7h à CFNJ.
Depuis 1987, la coopérative Terrabois accompagne les propriétaires forestiers avec des services professionnels en aménagement, en protection et en mise en valeur de leur patrimoine forestier. Grâce à une équipe d'experts passionnés et une approche axée sur le développement durable, Terrabois vous aide à prendre les meilleures décisions pour votre forêt, aujourd'hui et pour les générations à venir. Coopérative Terrabois, votre partenaire forestier dans Lanaudière et les Laurentides. Pour en savoir plus, terra-bois.qc.ca.
Municipalité, commerce, entreprise et organisateur d'événements. Ducharme Sécurité, une entreprise de Lanaudière, vous offre des solutions adaptées à vos besoins. Patrouille municipale, sécurité lors de spectacles et d'événements corporatifs, prévention du vol à l'étalage, surveillance après sinistre et système de caméra. Besoin d'être conseillé avant de choisir votre solution? Leur équipe est aussi là pour la vente et le conseil en sécurité. Ducharme Sécurité, votre sécurité, notre engagement. CFNG.
Lanaudière PM. Politique provinciale.
Régent Turgeon est toujours avec nous. Il a eu l'occasion de rencontrer également dans la circonscription de l'Assomption la candidate caquiste qui veut succéder à François Legault. Elle est auteure et conférencière Geneviève Peterson.
Oui, Geneviève Peterson a 44 ans, jeune mère de famille de 3 enfants, qui effectivement se porte candidate pour la CAQ dans une des élections qui sera certainement la plus suivie au Québec. On veut savoir qui va remplacer M. Legault dans l'Assomption. Et Mme Peterson, évidemment, est en lutte contre d'autres candidats, particulièrement le Parti québécois. Là, on les place nez à nez dans les intentions de vote. Écoutez, Mme Peterson fait partie des 53% de femmes qui sont dans l'équipe de Christine Fréchette. On lui a déjà posé la question. Est-ce que vous n'avez pas déjà reproché à la CAQ de faire preuve de racisme systémique? Elle avait critiqué la formation à ce moment-là, à ce sujet-là. Elle s'est depuis rétractée, nuancée quand même ses propos. Et je peux vous dire qu'elle part au moment où l'on se parle, sa plateforme concernant l'agriculture dans Lanaudière et plus particulièrement dans la circonscription de l'Assomption, qui est quand même une des industries majeures là, dans ce coin de pays.
On va écouter l'entretien que tu as eu l'occasion donc de réaliser avec Geneviève Peterson, candidate de la CAQ dans l'Assomption.
Madame Peterson, la campagne électorale en est à sa 12e, 13e journée. Comment ça se déroule? Comment est votre expérience là, jusqu'à présent?
Bien, écoutez, moi, c'est ma première campagne électorale, donc j'ai aucun comparatif, mais c'est extraordinaire. J'ai des moments absolument fabuleux avec les gens, parce que c'est ça, une campagne électorale, c'est la rencontre avec les gens. Puis, parfois, tu sais, une de mes appréhensions quand je me suis lancée en politique, bon, évidemment, on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, des fois qui sont durs, parfois carrément violents. Et la différence entre ce qu'on lit sur les médias sociaux et le terrain, elle est absolument, elle est très, très grande, cette différence-là. Les gens, quand on cogne à la porte, quand on leur parle, sont pas toujours d'accord avec nous, ceci dit, hein. Mais, on peut parler avec eux, on peut rassurer, on peut répondre à des questions, on peut présenter qui on est, nos valeurs. Fait que c'est des rencontres vraiment que je trouve très, très enrichissantes.
Jusqu'à présent, on entend souvent là, les gens dire « Oh, on a besoin de changement, il faut changer le gouvernement à Québec. » Avez-vous l'impression d'incarner ce changement?
Bien, je veux dire, moi personnellement ou l'équipe de Christine Fréchette? Bien, c'est sûr que l'équipe de Christine, puis moi aussi, tu sais, moi je l'ai dit, c'est ma première campagne, donc c'est du sang neuf, mais je pense que ce qui fait notre force, en fait, à la coalition en ce moment, c'est qu'on a un mélange d'expérience et de nouveaux visages. Fait que ça apporte un vent de fraîcheur, mais dans un moment où on a besoin quand même de stabilité, d'être en contrôle, d'avoir les mains sur le volant. Donc pour moi, c'est le mélange parfait.
L'appui de Mme Fréchette qui est de passage à l'Assomption, vous en aviez besoin de cet appui-là, qu'elle vienne vous endosser?
Bien, on est toujours content quand la chef visite notre comté. C'est sûr que ça fait plaisir. Puis je pense que Mme Fréchette, c'est elle aussi une femme de terrain. C'est quelqu'un qui aime être proche des gens. Moi, je l'ai vu parler avec du monde, écouter leurs préoccupations. Elle les entend. Donc, c'est important pour elle de visiter chaque région du Québec pour bien prendre le pouls, là. Donc, c'est fondamental. Puis c'est sûr que ça fait un petit velours quand on passe dans notre comté. On est très contents.
Vous entendez quoi depuis que vous allez sur le terrain, justement? Parce que vous n'étiez pas dans la région de l'Assomption, là.
Bien, moi, j'habite dans la région de la Naudière, puis l'Assomption, c'est quand même une région que je connais assez bien. Mon chum m'a enseigné au cégep ici. J'ai des amis qui ont dirigé les opérations du Théâtre Hector Charest. Donc, j'avais eu l'occasion de venir quelques fois. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'ai commencé à faire du porte-à-porte, je me disais, ah, les gens vont me parler des enjeux super précis, là, les enjeux de l'Assomption. Mais non, les gens me parlent souvent des enjeux nationaux, puis je les comprends parce que c'est préoccupant ce qui se passe en ce moment. On est dans une période historique qui est quand même chargée avec tout ce qui se passe avec les États-Unis. Ça, je l'entends beaucoup. Les gens sont inquiets, beaucoup du coût de la vie, beaucoup de familles aussi, c'est sûr. Là, moi, j'ai 3 enfants, fait que ça me touche. Je rencontre des familles qui me parlent des écoles, des infrastructures, système de santé. C'est les mêmes thématiques qui reviennent finalement là, quand on cogne aux portes.
Vous êtes élu le soir du 5 octobre. Quel serait le premier dossier que vous allez âprement débattre et discuter à Québec pour qu'il y ait une solution ou qu'on trouve quelque chose?
Premièrement, si je suis élu le 5 octobre, je pleure de joie. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Après, quand je vais m'être ressaisie de mes émotions, bien, c'est sûr que moi, tous les dossiers sociaux, puis moi, c'est pour ça que je me suis engagée en politique. Donc, les gens qui sont moins chanceux, l'égalité homme-femme, la culture au Québec, nos cultures régionales aussi, hein, parce que moi, je me présente dans l'Assomption, mais je suis une fille qui vient d'une région, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis les cultures régionales, elles sont hyper importantes dans mon cœur. C'est important de les chérir, ces cultures-là, de les protéger, de les encourager, que ce soit par, oui, les manifestations artistiques, mais par notre agriculture, par notre ce qui est le terroir, les restaurants. Tu sais, c'est ce qui fait l'unicité de chaque région au Québec. Fait que c'est sûr que ça va être des projets que je vais porter à bout de bras à l'Assemblée nationale si les électeurs de l'Assomption m'en donnent l'occasion.
Les sondages, de façon générale, placent le PQ et la Coalition Avenir Québec, équipe Christine Fréchette, au nez à nez. Ça vous réjouit? Ça vous étonne? On reçoit ça comment?
Moi, je ne commenterai pas les sondages aujourd'hui. Moi, le meilleur sondage que j'ai, c'est ce que je vois sur le terrain. Puis sur le terrain, là, le vent est bon.
Avez-vous pris l'entière mesure de l'opposition que vous avez avec un candidat PQ? C'est quand même pas né de la dernière pluie, un avocat constitutionnaliste.
Je comprends pas votre question. La pleine mesure de
cette opposition-là, de votre opposant pour gagner le siège.
Bien, moi, Maxime, je veux dire, c'est un candidat de qualité. Puis, je veux dire, à la fin de la journée, on est tous là pour la démocratie. Là, donc, tant mieux si on a un candidat de qualité de l'autre côté. Là, moi, je salue ça.
Voilà, c'était Geneviève Peterson, donc, qui est candidate pour la Coalition Avenir Québec, la CAQ, dans l'Assomption. Régent Turgeon qui a eu l'occasion de la rencontrer. Dans les prochaines minutes, on aura l'occasion d'entendre Jacques Fortin, il est directeur général de Lanaudière International. Il sera question de la guerre commerciale Canada-États-Unis.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, tout d'abord, vous mentionnez cet accident qui est survenu il y a un peu plus d'une heure. Route 341 à l'angle de la 346 du côté de Saint-Jacques. On signale une fermeture de la 341 dans les deux directions dans ce secteur, ce qui a occasionné aussi une panne d'électricité. Ça touche présentement environ 1600 clients d'Hydro-Québec là, du côté de Sainte-Julienne. Métropolitaine, maintenant, pour Charles de Gaulle, c'est quand même assez dense, secteur du tricentenaire. Ce que je regarde, quand même, on avance à environ 60 km/h, pas si mal. On reprend de la vitesse à partir d'Henri Bourassa. Traversée facile vers la rive nord, Repentigny. La 40 Est dense, secteur industriel. Sinon, ça va bien pour la suite des choses. La 341, montée de l'Épiphanie, c'est très lourd entre la 40 et la rivière L'Assomption. Pont-le-Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, un peu dense à la jonction avec la 440 là, du côté de l'île Jésus, secteur Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, ça va quand même relativement bien pour la 25 Nord. Pont Sophie-Masson, un peu dense à l'approche, sinon la traversée est facile. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction ouest, on circule sans problème. Direction ouest, c'est un petit peu lourd à l'approche de la montée des Pionniers pour la 40. Pierre Jubinville et l'actualité dans un instant.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Cet été, faites le plein de produits locaux avec les marchés publics orchestrés par Passion Marché dans la région. Comme la 23e édition estivale des Pêchés Mignons de la Noraie, un incontournable pour découvrir les saveurs de la Naudière avec vue sur le fleuve. Le 13 septembre de 10h30 à 15h30, place au marché écolo en mode zéro déchet. Dans une ambiance zen, dégustation, prêt à manger, air de repos pour profiter du moment et bien sûr une foule de marchands d'ici qui vous feront profiter des merveilles de leurs récoltes estivales. Les Pêchés Mignons de la Noraie au parc Jean Bourdon, 14 rue Louis-Joseph Doucet, directement sur le chemin du roi.
On est juste en septembre et déjà, vous rêvez de repartir en vacances? Jusqu'au 13 septembre, CFNJ fait tirer deux forfaits pour vivre une expérience unique à l'auberge La Barrière de Sainte-Émilie de l'Énergie. Deux nuitées sur un bateau maison, l'embarcation et les droits de pêche pour cinq espèces de truites, une valeur de 700 $ plus taxes chacun. Notez l'indice du jour donné par les animateurs et inscrivez-vous sur cfnj.net. Deux finalistes par jour et le dimanche, répondez à l'appel chanceux pour gagner votre forfait à La Barrière pour voirie 4 saisons.
Concours exclusif aux membres.
Tous les détails sur cfnj.net.
Jean de Lanaudière, ici Simon Mercier, qui vous souhaite une bonne rentrée. Et surtout, n'oubliez pas que pour acheter ou vendre, c'est...
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel.
Et commercial.
Achetez-vous à la maison?
Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Municipalité, commerce, entreprise et organisateur d'événements. Ducharme Sécurité, une entreprise de Lanaudière, vous offre des solutions adaptées à vos besoins. Patrouille municipale, sécurité lors de spectacles et d'événements corporatifs, prévention du vol à l'étalage, surveillance après sinistre et système de caméra. Besoin d'être conseillé avant de choisir votre solution? Leur équipe est aussi là pour la vente et le conseil en sécurité. Ducharme Sécurité, votre sécurité, notre engagement.
Passez chez Best Buy Express pour la rentrée et obtenez jusqu'à 350 $ en carte cadeau à l'activation. Certaines conditions s'appliquent.
L'actualité de ce mercredi 9 septembre, Pierre Jubinville. Tout d'abord, le dossier de l'itinérance, là, Joliette et Santé Québec-Lanaudière qui sont à couteau tiré.
Ils ne font pas la même lecture du dossier de l'itinérance. La Ville réclame de Santé Québec qu'ils prennent le leadership en déposant un plan d'intervention régional, mais le PDG de Santé Québec semble hésitant.
Est-ce que nous allons déposer un rapport qui, de notre propre chef, là, solutionne l'enjeu de l'itinérance? La réponse est non.
Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, est déçu de cette réponse.
J'ai trouvé ça un peu mépaysant pour la population parce que c'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur à Joliette et qu'on est en droit de demander à tout le moins une meilleure répartition régionale.
Sa récente lettre ouverte et les deux entrevues qu'il nous a accordées semblent avoir sensibilisé la population.
Les gens me disent être derrière moi. Comprennent mon exaspération et comprennent aussi ma démarche.
Pierre-Luc Bellerose persiste et signe. L'heure n'est plus aux discussions, mais à l'action, et Joliette a assez donné.
Est-ce qu'il va y avoir lieu de remettre en question, par exemple, l'usage conditionnel qui est accordé à la ressource de la hutte actuellement pour la relocaliser ailleurs?
François Morin, CFNJ Nouvelle.
Bon, maintenant, Pierre, il y a la MRC de Joliette qui, elle, dépose ses demandes aux partis politiques.
Et Pierre-Luc Bellerose est aussi préfet de la MRC de Joliette. Il demande donc aux candidats à l'élection du 5 octobre de se commettre sur les grands enjeux. Monsieur Bellerose souligne que les gouvernements ont délaissé plusieurs de leurs responsabilités au cours des dernières années et que ce sont finalement les municipalités qui en ont hérité.
Donc, le désengagement de l'État là, des dernières années qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des nouvelles responsabilités et une pression importante sur nos finances publiques. Puis contrairement au palier provincial et fédéral, ben nous, je le répète souvent, on doit faire des budgets équilibrés. Donc, ces nouveaux paramètres viennent rendre ça plus complexe de notre côté avec toutes les nouvelles responsabilités sans les enveloppes adéquates là, pour les combler.
Scène fédérale, maintenant, le Bloc québécois qui croit qu'il faut se tenir debout face à un intimidateur. Et Pierre, il n'y a personne qui va dire le contraire. Là.
Absolument. Le député du Bloc québécois de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, affirme que la surenchère a ses limites, mais qu'il faut en même temps, effectivement, se tenir debout devant Trump. Réagissant à l'escalade dans la guerre commerciale avec les États-Unis, M. Perron admet qu'il n'y a pas plus dramatique pour les entreprises que l'incertitude.
On a mis fin aux négociations, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, des contre-tarifs, une espèce de réponse mesurée. Maintenant, soyons vigilants pour la suite, c'est ce que je dirais. Puis surtout, mettons l'importance à la protection de nos entreprises, notre tissu économique, nos PME qui vont trouver ça dur. C'est pas tout le monde qui va être touché. Faut pas non plus trop dramatiser, mais en même temps, c'est très dramatique pour les gens qui sont touchés.
Lancement de la campagne de financement du cabas d'Autry.
Oui, l'objectif, 75 000 $. Soulignons que la Caisse des Jardins de d'Autry doublera la contribution de ses membres, tout comme les pharmacies Jean Coutu de Berthier et Lavaltrie. Christian Paquin Coutu est directeur général du cabas qui souligne que le milieu communautaire souffre de sous-financement.
Le milieu communautaire, puis là, je vais sembler un peu, peut-être un peu rough, là, mais c'est un peu le cheap labor du système de la santé. Donc, le gouvernement s'attend à ce qu'on soit toujours là pour pouvoir continuer d'offrir des services, mais sans offrir des subventions à la mission qui sont suffisamment généreuses pour être capable d'offrir des conditions de travail décentes pour la majorité des employés qui travaillent dans le milieu communautaire. Des gens qui travaillent dans les organismes communautaires sont obligés de bénéficier de d'autres organismes communautaires pour être capables de se nourrir puis d'arrondir les fins de mois. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas.
Et finalement, Pierre, lancement d'une vaste campagne du ministère des Transports.
Oui, on peut parler de vaste campagne parce que 372 000 ménages québécois vont recevoir une invitation postale à participer d'ici la fin décembre à l'enquête origine-destination. On veut obtenir des données sur la mobilité des personnes. Le questionnaire sera en ligne, permettra de décrire des déplacements lors d'une journée donnée, et ce, quel que soit le mode de transport utilisé. Les résultats en 2028.
Merci Pierre Jubinville.
Bonne soirée.
Il est 16h35.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. International.
Ah, Régent Turgeon qui est encore avec nous. Ça bougeait beaucoup pour Régent dans les dernières heures, les derniers jours. Régent, notre journaliste à la salle des nouvelles, a eu l'occasion de s'entretenir avec Jacques Fortin au sujet de la guerre commerciale avec Canada et États-Unis. Jacques Fortin, il est directeur général de Lanaudière International.
Voilà, Monsieur Fortin, là, c'est le grand patron, si on peut dire, de Lanaudière International, mais Lanaudière International représente toutes ces entreprises manufacturières de Lanaudière qui donnent dans l'exportation. Alors, imaginez que vous êtes aujourd'hui propriétaire d'une entreprise, je ne sais pas, dans l'acier ou quoi que ce soit, et 30 % de vos revenus proviennent des biens que vous acheminez aux États-Unis. Alors, si du jour au lendemain, on vous coupait 30 % de vos revenus en exportation, imaginez l'impact que serait sur votre entreprise.
Mais c'est pas mal alors, ça qui se passe, là, oui.
Alors, M. Fortin, évidemment, je suis de très près la situation et avise ses membres sur la façon de procéder. D'ailleurs, la Nodière internationale s'était donné l'année passée un programme qu'on a appelé Opération Prospérité Québec, qui est une espèce d'outil qui vise à mieux préparer le milieu lanodois pour faire face, là, justement, aux tarifs douaniers américains.
Bon, on va écouter justement cette entrevue que tu as eu l'occasion de réaliser, Régent Turgeon, avec Jacques Fortin, le directeur général de la Nodière internationale.
M. Fortin, on l'a appris hier soir, il y a une nouvelle escalade là, dans la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Et il y a des décrets très spécifiques qui ont été annoncés par l'administration Trump. Il y en a trois d'importance, là.
Oui, absolument. Les nouveaux décrets ou en tout cas les nouvelles entreprises qui sont ciblées, faut vraiment aller les identifier une par une. Là, puis c'est vraiment un travail chirurgical qui a été fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des entreprises qui ont été retirées. Donc il y a des endroits où ça fait mal aux Américains leurs propres tarifs. Donc ça c'est une bonne indication et qu'ils ont reculé sur la question des avions bombardiers, du manufacturier d'avions bombardiers parce que ça leur ferait trop mal. Donc on voit que la stratégie canadienne d'y aller de manière ciblée et posée, ben y a pas de bonne façon là, mais c'est la moins mauvaise façon de d'agir dans ce contexte-là.
Mais votre réaction initiale là, à l'annonce de ces trois décrets-là, là, interdit d'importer des produits canadiens, des produits taxés qui ne l'étaient pas, et même empêcher des compagnies canadiennes de soumissionner sur des contrats publics fédéraux, parce que là, c'est pas juste les biens, c'est les services également, ça nous écorche.
Bien, l'analyse ce matin, là, avec un peu de recul, on s'aperçoit que c'est relativement marginal, que ça va toucher des entreprises de même très, très précises. Les contrats gouvernementaux fédéraux, c'est une chose, mais c'est un peu comme le gouvernement canadien ici. Là, ceux qui dépensent en infrastructure puis qui dépensent en projet, c'est les municipalités puis c'est les gouvernements d'État puis c'est ceux qui sont aux opérations. Donc ça, c'est pas touché. C'est en termes de volume d'argent aussi, c'est pas tant d'argent que ça. Quand on défait tout ça là, qu'on analyse en détail. Donc beaucoup de fumée, mais le feu est très faible.
Est-ce qu'encore une fois, on peut pas dire que notre résilience est mise à l'épreuve parce que là, tarif contre tarif et là, encore des décrets, on sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça non plus, là. Ça fait peur.
Je dirais pas que ça me fait pas peur. Moi, ça me fait pas peur. Là, l'Amérique va demeurer l'Amérique, puis le Canada, puis les États-Unis, puis l'économie a des besoins fondamentaux. Puis l'exemple de Bombardier en est encore un bon, là, va finir par s'imposer. Même ceux qui sont illogiques dans tout ça, à un moment donné, les lois de la nature s'imposent. Donc, dans ce cas-ci, comme disait, je pense que c'est Jean Charest hier qui disait, à un moment donné, les lois de la physique vont prévaloir. Là, ça, c'est immuable. Donc, ça va finir par prévaloir. Donc, combien de temps? Ça, c'est très perturbant, c'est dérangeant parce qu'on a d'autres choses à faire dans la vie que de résister à ces choses-là puis s'adapter. Mais pour l'instant, je pense qu'on a la bonne stratégie. Puis d'être solidaire derrière le gouvernement canadien, je pense que c'est la bonne façon de faire actuellement.
On ne pourra pas continuer de bouder les États-Unis de toute façon, là.
Non, puis on les boude pas, là. Les entreprises continuent l'ALENA s'applique encore entièrement. La plupart de nos exportations sont pas touchées, sont dérangées, mais sont pas touchées plus que ça. Donc le commerce entre les États-Unis et le Canada demeure. Les États qui font affaire avec le Canada qui dépendent du Canada, ben là on a un levier sur ces gens-là. Puis ce sont ces gens-là qui vont faire pression puis qui vont ramener le bon ordre éventuellement.
Tout ça, là, fait que ça domine ces tarifs-là, ces décrets-là, l'actualité. Ça a quand même un impact sur la campagne électorale au Québec. On ne jase que de ça. C'est important qu'on adresse ce sujet-là en pleine campagne électorale.
Oui, ben il y a du bon puis il y a du mauvais. Le côté dissonant, c'est au niveau démocratique, c'est que ça vient nous enlever notre débat démocratique sur des enjeux fondamentaux qu'on aurait besoin de faire. Puis on a des campagnes électorales aux 4 ans, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des débats à faire, puis on fait bien nos débats, puis notre système démocratique fonctionne bien habituellement. Là, ça vient perturber les débats. Ça nous empêche, nous, comme citoyens, mais d'avoir d'entendre parler des choses dont on voudrait vraiment fondamentalement entendre parler. Là, qu'est-ce qu'on va faire dans les écoles, qu'est-ce qu'on va faire dans la santé, qu'est-ce qu'on va faire avec les routes, qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça qui nous intéresse. Mais là, actuellement, ces choses-là sont un peu oblitérées par cette fumée-là qui fait l'affaire de certains partis probablement, mais moins que d'autres. Là, mais ça, je m'en irais pas là-dedans. Puis le deuxième aspect, c'est ben ça nous amène, nous, à voir, ben, dans un contexte de concurrentiel plus difficile que celui de la somme, qu'est-ce qu'il faut faire comme milieu pour aider nos entreprises, qu'est-ce qu'il faut faire comme entreprise. Puis les deux choses à faire, ben c'est de s'assurer de son position commerciale, de sa position concurrentielle, puis d'améliorer la productivité. On le dit, ça fait des années, ben là aujourd'hui on est devant. Si on est bien productif, si on a des bons produits, si on les produit à moindre coût, on est efficient, on est innovateur, ben comme Bombardier, on va réussir à se maintenir sur ces marchés-là.
Il y en a qui mentionnent la possibilité qu'il y ait de l'inflation à cause de tout ça.
Ben là, je vais laisser ça aux économistes, mais évidemment, toute perturbation économique d'une telle ampleur, ça a un impact sur l'activité économique. Donc, mais on pensait qu'en début d'année, on aurait une récession. L'économie canadienne a été plus résiliente que ce que prévoyaient les économistes. Tant mieux. Est-ce que c'est parce que c'est un vieux fonds accumulé qui fait que l'effet se fait moins sentir ou on est vraiment bien résilient? Ben on le verra, mais moi j'ai confiance que même si on allait dans une récession, que l'économie québécoise, l'économie canadienne n'est pas en train de s'effondrer.
Ben c'est clair, il faut se tenir debout. C'est Jacques Fortin qu'on écoutait, il est directeur général de Lanaudière International, et c'est Régent Turgeon qui a eu l'occasion de s'entretenir avec lui. Dans un moment, Pierre Paquette.
Municipalité, commerce, entreprise et organisateur d'événements. Ducharme Sécurité, une entreprise de Lanaudière, vous offre des solutions adaptées à vos besoins. Patrouille municipale, sécurité lors de spectacles et d'événements corporatifs, prévention du vol à l'étalage, surveillance après sinistre et système de caméra. Besoin d'être conseillé avant de choisir votre solution? Leur équipe est aussi là pour la vente et le conseil en sécurité. Ducharme Sécurité, votre sécurité, notre engagement.
Le vendredi 18 septembre, le trio Gentilcorum est en spectacle au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois pour une rare visite dans la Lanaudière. Les billets sont disponibles en ligne à crapaud.qc.ca.
La louette y chante.
On est juste en septembre et déjà, vous rêvez de repartir en vacances? Jusqu'au 13 septembre, CFNJ fait tirer 2 forfaits pour vivre une expérience unique à l'auberge La Barrière de Sainte-Émilie de l'Énergie. 2 nuitées sur un bateau maison, l'embarcation et les droits de pêche pour 5 espèces de truites, une valeur de 700 $ plus taxes chacun. Notez l'indice du jour donné par les animateurs et inscrivez-vous sur cfnj.net. 2 finalistes par jour et le dimanche, répondez à l'appel chanceux pour gagner votre forfait à La Barrière pour voirie 4 saisons.
Concours exclusif aux membres.
Tous les détails sur cfnj.net.
Parler de la mort n'est pas un sujet facile. C'est pourquoi votre coopérative funéraire vous aide à planifier vos arrangements préalables avec empathie, et ce, sans pression. En plus d'éviter à vos proches d'avoir à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, vous décidez du type de funérailles que vous souhaitez et vous en payez le coût au tarif d'aujourd'hui. Appelez-nous pour en discuter, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, éternellement dévouée.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Hyacinthe, Ultramar, sur la rue La Framboise, à Sainte-Marjorique, les Campagnards, marché urbain, à Saint-Cyril de Wendover, marché Dupuis Saint-Cyril, à Sainte-Clotilde de Horton, marché Ami, et à Saint-Léonard d'Aston, pharmacie Family Prix Isabelle Fleurant. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À CFNJ,
Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Ah, je suis heureux de le retrouver. Je me sens ennuyé de Pierre au cours de l'été. Salut!
Mais moi aussi, Claude.
on va parler aujourd'hui de cette campagne électorale et des candidats boîte à surprise qu'on pourrait appeler, autrement dit, là, des Jack in the Box.
Oui, exactement. Mais je pense qu'il faut reconnaître que le Parti conservateur du Québec est le champion dans cette catégorie.
Oui, il y en a eu un ce matin.
Une dizaine à peu près qui ont mis Éric Duhaime dans l'embarras. Bon, il y en a un qui n'a quitté ce matin. C'est peut-être le cas le plus patent, c'est Éric Lantier. C'est un pasteur qui est homophobe, anti-avortement, qui est pour les thérapies de
conversion.
Conversion. Quand on sait qu'Éric Duhaime est lui-même gay, alors je sais pas ce que ce gars-là fait dans les rangs du Parti conservateur, mais c'est pas le seul qui a des relents au plan de l'homophobie.
Y en a un autre. Écoute, on ne les nommera pas toutes parce qu'il y en a un paquet au Parti conservateur. Non, ça, d'ailleurs, il faut mentionner que le Parti conservateur, à quelque part, bâillonne ses candidats pour pas avoir affaire à des gens comme ça. Sauf que lorsqu'on se met à fouiller dans leur passé sur les réseaux sociaux, ben là, on fait des belles découvertes. Il y a entre autres, l'animateur de radio, Dominique Dumas, qui, lui, voudrait rouvrir le débat de l'avortement. Il y en a un qui comparait Justin Trudeau à Hitler, Denis Charron. Oui. En tout cas, un autre...
Il y a Marie-Josée Élie aussi qui, elle, considère que le vaccin, c'était un acte génocidaire.
Ben oui. Puis un autre qui est en faveur d'une annexion du Québec aux États-Unis. Bravo!
Il y en a plusieurs. J'en ai compté au moins 3-4 qui sont en faveur de la... Ben, qui ont été. Peut-être que maintenant, ils ne sont plus, mais qui ont fait des déclarations en faveur de l'annexion du Canada aux États-Unis. Il y en a évidemment dans les autres partis. Je pense qu'au PQ, c'est vraiment François Gariépy qui est le cas le plus patent, le plus publicisé.
Oui, Gariépy, c'est celui qu'on a appelé le candidat Radio X qui se présente dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré.
Exactement. Alors, lui, il y a un admirateur, c'est le candidat libéral, oui. Michel Bureau.
Ah, ça, c'est
mais
drôle.
Il n'y a pas que des admirateurs dans la région. Il y a plusieurs maires qui le trouvent un peu corrosif.
Mais attends un petit peu, faut démêler les choses, là, parce que ça se passe dans cette circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. T'as un péquiste qui se présente, qui, lui, veut sortir la députée caquiste qui est sur place. Ce péquiste-là, François Gariépy, candidat Radio X, qui a lancer des propos misogynes, parfois en ondes, des trucs comme ça, en tout cas. C'est comme un électron libre, on pourrait dire, et Paul Saint-Pierre Plamondon a pris sa défense. Et là, il y a aussi un candidat libéral qui est dans Charlevoix, qui, lui, s'affiche publiquement comme étant un libéral péquiste, c'est-à-dire qu'il veut faire rentrer le péquiste.
Oui, puis il a fait carrément les louanges de M. Gariépy, alors... il a expliqué que il aurait peut-être pas dû être aussi louangeur, mais son idée c'était qu'il fallait absolument que la CAQ soit défaite, et donc comme les chances étaient plus élevées du côté du PQ, il a pas appuyé, mais il a encensé son rival, M. Gariépy.
Pierre, toi qui a fait de la politique, lorsqu'arrive une campagne électorale, qu'un parti présente des candidats, on fait des recherches, des enquêtes sur ces candidats-là. Dans le cas du libéral Michel Bureau, il s'était déjà présenté pour Dominique Anglade à l'élection précédente, et même dans les années 90, si on recule plus loin, c'est un gars un peu loufoque, là, dans les années 90, il s'était présenté à Montréal au municipal pour le parti de Jérôme Choquette. On n'avait pas à faire une enquête très, très, très profonde sur son cas en disant, c'est clair que ce gars-là a des allégeances politiques un petit peu farfelues. Mais dans le cas de candidats comme ceux du Parti conservateur, est-ce qu'on fait des enquêtes? Comment ça marche, Pierre?
Je pense il y a des enquêtes. J'ai l'impression que le Parti conservateur est moins chatouilleux que, par exemple, le Parti québécois. D'ailleurs, je suis toujours surpris de voir que Gariépy est encore là, mais je pense que c'est un choix que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait pour montrer justement que le PQ n'est pas aussi à gauche que certains le disent, et donc on a des candidats qui ont déjà frayé avec la droite populiste. Mais il a fait des enquêtes. Je dirais même que parmi tous les chefs présentement en place, c'est sûrement pas Saint-Pierre Plamondon qui est le plus chatouilleux sur l'éthique et puis le passé de ces candidats. Il y a énormément de candidats qui ont été refusés pour différentes raisons, qui auraient été des bons candidats, mais pour des déclarations qui ont été faites dans le passé ou parce qu'on avait un meilleur choix à offrir. Dans le cas de M. Bureau, c'est connu. Moi, j'ai l'impression tout simplement que le Parti libéral a besoin de candidats dans certaines régions où le vote francophone est loin d'être acquis aux libéraux. Donc, on a fait le choix de renommer M. Bureau, même si ses allégeances... Il se dit libéral, mais en même temps, il a déjà été péquiste, il l'a reconnu. Et donc, cette fois-ci, je pense qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin. D'ailleurs, cette semaine, il s'est un petit peu rétracté. Et donc, je pense que c'est plus de l'ordre de l'anecdote que d'autre chose.
Ben, c'est ça. Il a dû recevoir une tape sur les doigts quelque part en disant, exactement, ben, calme-toi un petit peu, là.
il va finir la campagne parce qu'évidemment, c'est pas, au moment où on se parle, trouver un autre candidat pour remplacer un candidat qui est en place, c'est difficile.
Je crois
du
que
côté
la,
de la CAQ,
la date,
du côté de la
CAQ, oui, rapidement terminant.
Oui, du côté de la CAQ, il y en a une que je veux absolument signaler. C'est Mme Leblanc, Julianne Leblanc dans Darcy McGee. On lui a demandé qui a fondé la CAQ. Elle a été incapable de le dire. On lui a demandé en quelle année a eu lieu le référendum de 1980. Elle a dit 1985. Alors, je pense que c'est pas une dame très politisée.
les candidats ont jusqu'au 17 septembre pour se présenter, c'est-à-dire s'inscrire auprès du DGE. Il me semble que c'est le 17 septembre. Alors, on peut avoir encore d'autres surprises d'autres candidats qui peuvent sauter là, d'ici là.
Ben exactement. Puis, bon, on a vu, pour des raisons de santé, que certains candidats ont dû se démettre, mais rapidement, les partis ont trouvé des gens pour les remplacer. Alors, non, je pense que on aura une liste de candidats assez impressionnante à cette élection.
Merci Pierre Paquette, c'est tout le temps dont on dispose. On se reparle la semaine prochaine.
Lundi.
Salut. Merci tout le monde d'avoir été là. Manquez pas la vie dans la Naudière avec Hugo.